France Musique. Musicopolis. Milieu de l'hiver 1888, Saint-Pétersbourg. Été 1888, lac de Tcheremenetskoï. En janvier, naquit notre fille Masha, raconte Nikolaï Rimsky-Korsakov dans ses mémoires. Vers le milieu de l'hiver, parmi les travaux sur le prince Igor et diverses autres choses, j'eus l'idée d'une pièce d'orchestre d'après certains épisodes de Scheherazade, ainsi que d'une ouverture sur des chants religieux traditionnels. C'est avec ces projets et avec les esquisses musicales correspondantes que je partis avec ma famille, l'été venu, dans une datcha près du lac Tcheremenetskoï. C'est là, au cours de l'été 1888, que je terminais la Grande Pâque russe et Scheherazade. Dans ses mémoires, Rimsky-Korsakov explique exactement ce qu'il a voulu faire en composant Scheherazade. Le programme sur lequel je me basais, écrit-il, était constitué d'épisodes épars, sans lien entre eux, des contes des mille et une nuits, répartis entre les quatre mouvements de la suite. La mer et le bateau de Sinbad, le récit fantastique du prince Calender, le jeune prince et la princesse, la fête à Bagdad et le naufrage du bateau sur un rocher représentant un écuyer en bronze. Les fils conducteurs sont les brèves introductions des premiers, deuxième et quatrième mouvements et l'intermède du troisième, écrit pour violon solo et évoquant Scheherazade elle-même, racontant au redoutable sultan ses contes merveilleux. Le programme de Scheherazade, auquel Rimsky-Korsakov fait allusion dans ses mémoires, se trouve en tête de la partition. Il est très explicite. Le sultan Shahriar, persuadé de la fausseté et de l'infidélité des femmes, avait juré de faire donner la mort à chacune de ses épouses après la première nuit. Mais Scheherazade sauva sa vie en intéressant le sultan aux contes qu'elle lui narra pendant cette nuit-là et mille autres. Pressé par la curiosité, le sultan remettait de jour en jour le supplice et il finit par renoncer tout de bon à sa sanguinaire résolution. Bien des merveilles furent ainsi racontées à Shahriar. Pour ces récits, la sultane empruntait aux poètes leurs vers, aux chansons populaires leurs paroles, et elle intercalait les récits et les aventures les uns dans les autres. En composant Scheherazade, déclare Rimsky-Korsakov, je ne voulais, par les indications en début de chaque mouvement, qu'orienter quelque peu la fantaisie de l'auditeur du côté où s'était dirigée ma propre fantaisie. Je voulais simplement que l'auditeur, si ma musique lui plaisait, eut l'impression nette qu'il s'agissait d'un récit oriental et non pas seulement de quatre pièces jouées à la suite l'une de l'autre sur des thèmes communs. Voilà donc ce qu'est Scheherazade pour Rimsky, un récit oriental. Eh bien, voyons donc un peu ce qu'il en est. D'abord, c'est peut-être avant tout un récit de voyage. Derrière la conteuse, on entend la mer qui s'agite. La mer. Voici un élément que Rimsky-Korsakov connaît bien. À 12 ans, en 1846, il est entré comme cadet à l'Académie navale de Saint-Pétersbourg. Ce qui va l'amener à 18 ans, en guise de stage de fin d'études, à passer 3 ans à naviguer. Partant de Saint-Pétersbourg, logiquement, son bateau visite d'abord les côtes de Lettonie, d'Allemagne, puis d'Angleterre. Il traverse l'Atlantique jusqu'aux États-Unis. Pendant la guerre de sécession, il descend jusqu'au Brésil, puis il retraverse dans l'autre sens. Il passe par le Cap-Vert et jusqu'à Gibraltar. Un petit tour en Méditerranée, il s'arrête quelque temps à Nice, avant de revenir en Russie, par la Norvège et la Finlande. Lorsque Rimsky-Korsakov part en mer à la fin de ses études à l'école navale, il est déjà très musicien amateur. Il joue du piano, il compose un peu, mais il n'a pas fréquenté d'école de musique. En revanche, il s'est déjà rapproché de Mili Balakirev, talentueuse autodidacte qui va réunir autour de lui la fine fleur des compositeurs pétersbourgeois, autodidactes comme lui. Le noyau des cinq les plus déterminés va former un groupe que leur ami écrivain et journaliste Vladimir Stassov appelle « puissantes petites poignées ». Ce qui les anime, c'est leur commune volonté d'une musique nationale russe qui ne soit pas contaminée par les règles et les tournures de la musique germanique contemporaine. En 1888, l'année où Rimsky-Korsakov compose Scheherazade, le tsar Alexandre III est au pouvoir depuis 7 ans, depuis l'assassinat de son père Alexandre II. Le tsar vit à Saint-Pétersbourg, la capitale de l'Empire de Russie, un empire immense qui représente à cette époque environ un sixième des terres émergées de la planète. Et de même que les empires coloniaux britanniques, français et allemands cherchent à s'étendre au XIXe siècle, l'Empire russe lui aussi est en pleine expansion. Thank you. tsar Alexandre III est un russophile convaincu. Non seulement il poursuit la politique de conquête et d'annexion menée par ses ancêtres tsars depuis le XVIIe siècle, mais il tient aussi à russifier son pays malgré sa mosaïque de peuples conquis. Ses ministres durcissent leur politique face aux non-russes. L'usage des autres langues est limité. Le russe devient langue officielle obligatoire dans l'enseignement et l'administration, partout dans l'Empire, tandis que la religion orthodoxe est largement favorisée. L'Empire, voilà un sujet important pour les habitants de Saint-Pétersbourg. Ils sont fiers de la puissance impériale. Rimsky-Korsakov vit à Saint-Pétersbourg avec sa famille. Saint-Pétersbourg, capitale de l'Empire, siège du gouvernement du Tsar et ville la plus développée culturellement parlant. C'est là qu'on peut entendre de la musique, c'est là qu'est fondé le premier conservatoire de musique où notre musicien enseigne. C'est là qu'il a l'occasion de participer à des séances de musique de chambre, de diriger, de s'occuper de la musique de ses amis. C'est lui qui s'est chargé de préparer pour l'édition les œuvres de Moussorgski, mort en 1881. Et c'est encore lui qui travaille actuellement sur le Prince Igor de Borodine, mort l'année précédente. Rimsky est marié avec Nadejda Purgold depuis 16 ans. Masha, née en janvier 1888, est leur sixième enfant. C'est seulement l'été que Nikolai trouve le temps de travailler sur des œuvres longues. En 88, il se rend avec sa famille près du lac de Tchermenetskoï, à 170 km au sud-ouest de Saint-Pétersbourg. Il se ressource à la campagne, à la veillée, il écoute les chants des anciens, il regarde les danses des jeunes, il se repose. La Russie s'est agrandie dans toutes les directions depuis le XVIIe siècle, vers le nord, vers l'ouest, vers l'est et vers le sud. Le Caucase, aux confins entre l'Europe et l'Asie, passage entre la mer Noire et la mer Caspienne, est une terre particulièrement convoitée. Les Russes y sont officiellement implantés depuis la longue guerre du Caucase qui a pris fin en 1864 sous Alexandre II. Puis sous le règne d'Alexandre III, c'est la conquête de l'Asie centrale, jusqu'au Turkménistan et au Pamir, en bordure de la Chine et de l'Afghanistan. Et pendant que les tsars annexent à tour de bras, les artistes, eux, s'intéressent à ces nouveaux horizons, ces nouvelles cultures. Dans le Caucase en particulier, plus facile d'accès, où ils voient une image de l'Orient. César Cui, ami de Rimsky-Korsakov et membre du groupe des Cinq, a rapporté de là-bas des recueils de chants populaires. Au moment où Rimsky-Korsakov écrit Scheherazade, tout ce qui est exotique, particulièrement oriental, est à la mode. Et pas seulement en Russie, dans toute l'Europe, l'Orient inspire les artistes. En Russie, les contes des mille et une nuits ont été traduits récemment et on les a publiés avec des dessins magnifiques. Les peintres font des voyages dans les pays orientaux de l'Empire russe et ils en rapportent des peintures plus colorées les unes que les autres. Quant aux musiciens, ils travaillent sur des mélodies orientales autant que sur des mélodies russes. Pour eux, pour Rimsky et ses amis, c'est encore un moyen de défendre leur musique et de se démarquer de la musique occidentale, surtout de la musique allemande. Cela en affirmant les racines populaires, qu'elles soient purement russes ou qu'elles viennent des confins de l'Empire de Russie. Le dernier mouvement de Scheherazade de Rimsky-Korsakov est intitulé « Fête à Bagdad, la mer, le bateau se brise sur les rochers surmontés d'une statue de chevalier de bronze ». On y retrouve les thèmes orientaux et les thèmes russes, mêlés dans la volonté de Rimsky de défendre la musique nationale. Ceci dit, choisir pour finir la statue du chevalier de bronze n'est pas anodin. En effet, si ce titre fait bien référence aux mille et une nuits, pour tout habitant de Saint-Pétersbourg et donc pour notre compositeur, la statue du cavalier de bronze, c'est surtout celle de Pierre le Grand, le fondateur de la ville, une statue qui trône sur l'une des plus grandes places de Saint-Pétersbourg. Et c'est aussi le titre d'un poème de Pouchkine, que tout Russe connaît par cœur. Pierre le Grand était là, debout sur le rivage d'une mer déserte, et plein de ses grandes pensées, il regardait au loin. À ses pieds, le fleuve roulait ses larges eaux. Pierre se disait « Ici, une ville sera bâtie. La nature a voulu que nous percions une fenêtre sur l'Europe en demeurant le pied ferme au bord de la mer. Jusqu'ici, portés par ses flots, les bateaux de tous les pays viendront nous rendre visite. » Et une nuit s'était écoulée. Le sultan s'était adouci. Il décida de faire grâce à Scheherazade. « Aimable épouse, lui dit-il, je vois bien que vous êtes inépuisable dans vos contes. Vous avez apaisé ma colère et je renonce à la loi cruelle que je m'étais imposée. Je veux que vous soyez regardée comme la libératrice de toutes les filles qui devaient être immolées à mon ressentiment. » La nouvelle se répandit et attira à la princesse mille louanges et bénédictions. Scheherazade de Rimsky-Korsakov, Mikhail Chestakov au violon avec le Tchaïkovski Symphony Orchestra dirigé par Vladimir Fedoseyev. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Françoise Monteil pour les recherches et le site, Guillaume Leduc pour le mixage et Claire Lagarde pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.